Alors d'abord, un grand merci à vous tous d'être là, un grand merci à la Maison Molla de se pencher sur le sort de cette petite tomate qui est un fruit, comme chacun le sait, et certains en doutent, qui est un fruit, qui est une bémol, qui botaniquement est un fruit, et qui, pour certains, maintenant, leur permet d'avoir, sinon une conviction, en tout cas une certitude, c'est qu'elle n'est pas que rouge et ronde et sans saveur. Alors, je ne sais pas ce que Ségolène me demandera ou me torturera avec quelques questions très précises mais sur la tomate, mais je peux en tout cas, en guise d'introduction, vous dire que je suis tombé dans cette tomate il y a 20 ans de cela. Et chacun sait que la tomate est, un fruit qui est à peu près commun à tous nos plats, probablement à toutes les saisons, et c'est un tort. Alors, que je vous raconte simplement comment j'ai découvert ce fruit dans toutes ses splendeurs. Il y a 20 ans, j'ai acheté une propriété en Touraine qui s'appelle le château de la Bourdaisière, qui est une propriété au cœur des châteaux de la Loire, qui pour certains qui ont vu et aperçu le livre est toujours une maison qui se trouve située sur un terroir viticole, celui de Mont-Louis-sur-Loire, un terroir qui se trouve exactement entre Tours et Amboise, entre la Loire et le Cher, et qui est une propriété assez heureuse parce qu'elle a été érigée au XIVe siècle par le maréchal de Boucicaut, qui était un homme très guerroyeur, le premier maréchal de France, qui avait une formidable devise, qui était « ce que vous voudrez », qui aidait les femmes, donc on pouvait imaginer que tout ça était une ode au bonheur. Et un peu plus tard, cette maison est devenue la propriété de Marie Godin. Marie Godin était très belle, elle était la maîtresse de François Ier, qui a financé la reconstruction d'une demeure renaissance. Elle était appelée avec ses six sœurs les sept péchés capitaux. On pouvait imaginer que cette femme exquise avait beaucoup de talent, et en même temps, c'est elle qui a commencé à faire de la Bourdaisière un lieu où les jardins étaient les plus beaux, et où on faisait venir ce jardinier italien Pacello, qui était avec Léonard de Vinci, ces Italiens extraordinaires, architectes, peintres, sculpteurs, dessinateurs qu'on faisait venir en Touraine. Et un peu plus tard, sa petite-fille, son arrière-petite-fille, Marie-Gabrielle Esseret, serait née à la Bourdaisière et est évidemment la grande maîtresse de ce roi gascon que vous avez tous en tête, Henri IV, qui passait à la Bourdaisière. Il n'y avait probablement en ce temps bien reculé, pas encore de tomates. Pas encore de tomates parce que le parallèle évidemment avec la Bourdaisière, c'est que c'est une terre agréable, formidable. Et lorsque je suis arrivé, achetant cette propriété en 91, j'ai été subjugué par, évidemment, ce climat, celui de la Loire, ce jardin de la France, mais par cette succession de jardins qui allait donc du 14e, avec les douves qui dataient de la construction du maréchal de Boucicaut, à ces jardins de Renaissance, puis à ce potager du 19e, alors je ne vous ai pas raconté toute l'histoire de la Bourdaisière, mais à ce potager du 19e qui était abandonné. Pourquoi ? Parce que ça avait été une maison de retraite pendant 50 ans. Ça avait appartenu à ma famille, mais je ne le savais pas lorsque j'ai racheté la Bourdaisière avec mon frère. Et cette Bourdaisière avait un potager qui n'attendait qu'une chose, de le faire revivre. Et je me suis, en 92, posé la question de ce qui était finalement mon héritage à moi, celui d'avoir vécu dans des jardins, été élevé dans des jardins en Normandie et dans d'autres jardins à côté de Paris. Et je me suis tout de suite posé la question de l'utile et de l'agréable dans un potager, c'est-à-dire de planter des variétés anciennes. Alors en 92, je peux assurer, fin 91, début 92, tout le monde s'en contrefoutait des variétés anciennes. Alors à un point, alors quand on parlait de variétés anciennes, ce qu'on appelait richesse variétale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, mais alors on s'en contrecarrait, comme dirait la jeune génération, grave. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à les découvrir, alors il n'y avait pas d'internet à l'époque, collectionneurs qui étaient finalement des aventuriers, ce qu'on aurait appelé aujourd'hui des écolos de la première heure, eh bien même ceux-là me regardaient en se disant « mais qu'est-ce que vous venez me déranger ?» Alors ils s'appelaient Dominique Guillet, Philippe Desbrosses, c'est-à-dire ceux qui ont pourfendu cette idée reçue que le vivant d'abord n'appartient pas aux semenciers, et aux grandes multinationales, le vivant appartient à chacun. Et en même temps, le vivant est source d'émerveillement. Alors, j'ai commencé à collectionner trentaine de variétés de tomates, sans savoir d'ailleurs à quoi ressemblait la tomate réellement, parce que j'avais été, comme vous tous, élevé dans des potagers où il y avait des tomates qui étaient plutôt rouges. Mais enfin, tout était bon à Broglie, chez moi, en Normandie. Je volais assez facilement tout dans le potager. Donc, je me suis dit, je vais faire la même chose à la Bordésière. Et j'ai planté des collections de laitues, de chicons, des basilics que je faisais venir en collection de chez Richter au Canada. Et en 92-93, au moment où je quittais la banque pour devenir réellement jardinier, où mon premier surnom donné par mes copains, c'était évidemment Le Prince Jardinier, c'était assez facile, tiens à vous préciser, eh bien, je me suis aperçu que cette collection de tomates suscitait de plus en plus d'interrogations. Nous sommes en 92-93, les chefs jardiniers commencent à courir en se disant, tiens, on a entendu parler d'une collection de tomates de 40, il y en a des rouges, certes, mais il y a surtout des jaunes, des roses, des bigarrées, des noires, des blanches, des vertes. Et puis il y en a de toutes les formes, en forme de cucurbitacées, en petites poires, en petites pommes. Donc tout le monde venait me demander, mais qu'est-ce que c'est que cette collection de tomates? 95, vous vous souvenez évidemment des problèmes de dioxine, de vaches folles, de notre José Bové national qui détruit un McDonald's, je sais plus d'ailleurs où c'était, mais à Millau, bravo, bravo. Je vous suivais, chère madame, c'était un test, je tiens à le préciser, mais vous êtes la seule à suivre. Alors, Amilio, et donc, là, effectivement, la presse est interpellée, c'est toujours une sorte de fuite, on dit qu'il y a une espèce de fou qui en Touraine, à l'époque, avait 300 variétés de tomates, et on vient dans mon potager, et on observe tout ça en se posant la question si c'était des sortes d'organismes génétiquement modifiés ou si c'était des élucubrations d'un jardinier. Qui auraient éventuellement fumé des tas de choses qui étaient illicites. Et pas du tout. Je leur démontre à chacun que ce sont tout simplement le produit de la richesse variétale de ce fruit et qu'il en existe plus de.
650.
C'est bravo. Mais il en existe plus de 10 000 variétés à l'époque où j'avais découvert à travers 10 000 variétés. Et quand ce chiffre est venu jusqu'à moi, c'était le chiffre donné par le Seed Savers Exchange aux États-Unis. J'ai pris conscience de deux choses. La première, c'est que d'abord, 10 000 variétés de tomates, comment se faisait-il qu'on n'en avait que quelques-unes sur nos marchés? Premier point. Deuxième point, on parlait évidemment de dioxine, de vaches folles, de tous ces maux et de la malbouffe en général, mais fort était de constater que je découvrais par ailleurs que ces grands professionnels de la tomate, vous savez, ceux qui s'appellent Tomates de France, Saveol, et ainsi de suite, eh bien, ces gens-là étaient venus me voir. Et quand ils étaient rentrés dans mon potager, à l'époque, je faisais des conférences pendant la semaine du goût, tous disaient, ah, mais celles-là, elles ne sont pas mûres, elles étaient vertes, mais évidemment, c'était des green zebras, et ainsi de suite. Ah, mais les blanches, on n'a jamais eu ça. Et quand je leur disais, mais non, vous savez, c'est des variétés anciennes, ils me racontaient avec un toupet, un atout qui est quand même fort de, non pas de café, mais de tomates. Il me disait, mais vous n'y pensez pas, ça fait 4 ou 5 générations qu'on cultive de la tomate, nous on sait. Et là, je me suis dit, mais pour un profane comme moi, non pas du jardin, mais somme toute de la botanique, je pensais qu'il y avait quand même une dissension entre ma compréhension de ce qu'était ces entreprises de l'agroalimentaire, qui devaient savoir de quoi elles parlaient, et le fait qu'elles ne savaient pas, absolument pas de quoi elles parlaient. Et puis, j'ai eu, alors, personne est actionnaire de l'Imagrain ici, bien évidemment, personne est même un dirigeant de l'Imagrain. L'Imagrain vient, je vous raconte cette histoire, parce que ça a fondé mon engagement. L'Imagrain vient parce qu'ils venaient de racheter une société qui s'appelait Delisos à côté. Ils font leur séminaire avec 200 banquiers, la direction générale, rentrent dans mon potager, proposent de financer une partie du potager. Je leur dis avec grand bonheur, donne un montant absolument considérable quelques 8 mois après. Pierre Lefebvre, président-directeur général, m'appelle et me dit c'est formidable, mais en même temps, j'avais suggéré de créer une fête des plantes et j'avais mis quelques noms dans le comité de la fête des plantes et j'avais mis mes écolos de la première heure, dont je vous ai donné les noms, Dominique Guay et Philippe Desbrosses. Et à ce moment-là, le couperet est arrivé. Il m'a appelé, il m'a dit, cher ami, pour la subvention de 500 000 francs pour votre potager, sans problème, mais il faudrait simplement retirer les deux noms de ces hommes sur votre. Et là, je me suis dit, et je lui dis, cher ami, est-ce que je comprends ces 500 000 francs ou le nom de Dominique Guay et Philippe Desbrosses? Il me dit, non, ne le prenez pas comme ça. Et là, en ce moment, j'ai découvert ce qu'était cette espèce de diktat des semenciers. C'est-à-dire, alors je ne vais pas tomber dans la dérive du grand capital versus ceux qui préservent le vivant, mais ce diktat des grandes sociétés qui, déjà en 1995, voulaient faire, je dirais, de l'agriculture un modèle unique. Donc, quand je vous dis tout ça, c'est ce qui a engagé, somme toute, ma conviction qu'il était urgent de se battre pour cette biodiversité, dont, encore une fois, on taisait le mot. Et petit à petit, j'ai découvert que, passant 300 variétés à 647, madame, vous avez absolument raison, 647 variétés, que c'était non seulement un sujet essentiel, mais en plus de ça, un sujet passionnant, parce que la tomate, on connaît beaucoup, beaucoup de choses sur la tomate, on connaît énormément de choses sur les vertus en général de ce fruit, sur les différentes substances qui constituent vitamines, qui constituent ce fruit, mais on connaît la tomate en termes généraux et on s'aperçoit que la tomate en termes particuliers, c'est-à-dire les différentes variétés de tomates, ont chacune leurs propriétés, qui sont somme toute très différentes les unes des autres pour certaines, et donc sur le plan organoleptique, sur le plan médicinal, sur le plan cosmétique, la recherche ne fait que commencer. Et c'est la même chose pour l'ensemble d'ailleurs des fruits et légumes qu'on cultive dans nos jardins. Vous l'avez vu avec les raisins et le succès formidable de Caudalie à la lueur des découvertes qu'on a faites sur les raisins, sur les polyphénols, sur finalement les substances actives du raisin, eh bien la tomate vous réservera quelques surprises. Mais si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que entre 1995 et 2000, je m'étais posé la question comment prendre le sujet au sérieux, comment faire en sorte que, évidemment, cette tomate qui nécessitait plus de révérence que le joug sous lequel elle était tombée avec les producteurs de tomates, il était urgent d'avoir une approche scientifique. Et c'est comme ça que j'ai pu racheter, je fais une petite parenthèse, cette fameuse maison d'Erol. Alors, est-ce que tout le monde connaît la maison d'Erol? Que ceux qui ne connaissent pas la maison d'Erol lèvent la main. Que ceux qui n'ont pas été à l'école lèvent la main. Bon, tout le monde a été à l'école, tout va bien. Qui se souvient des planches sur les murs de classe que nous avions, les cartes de France? Oui, madame, il serait important d'amener... Formidable. Les cartes de France, alors comme ça, on fait... voilà. Ça, la maison des rôles avait... J'ai publié il y a exactement un an et demi un premier leçon de choses numéro 1 qui a eu énormément de succès, mais avant de vous parler du leçon de choses numéro 1 et du leçon de choses numéro 2 qui arrive cette semaine... Je tenais à vous préciser que la maison d'Erol est la plus vieille société de sciences naturelles en France et probablement une des plus vieilles sociétés de sciences naturelles dans le monde. Elle a créé et réalisé tout un programme autour des sciences naturelles comprenant la chimie, la physique, la géologie, la minéralogie, la zoologie, bien sûr, la botanique, la conchiologie, les instructions civiques, le corps humain et tout cela pendant plus de 150 ans, distribué dans 120 pays dans le monde. Donc, d'Erol était une société universelle qui a vulgarisé le savoir avec ses fameuses planches. Un tableau vaut mieux qu'un long discours. Émile d'Erol disait « L'intelligence par les yeux est celle qui fatigue le moins l'esprit dès lors que tout ça est très rigoureux. » Et donc, j'ai racheté d'Erol pour faire en sorte que cette maison, évidemment avec le 46 rue du Bac, qui est un endroit formidable, qui est ce cabinet de curiosité que certains connaissent avec ses collections d'animaux naturalisés, pas de tomates, mais ces collections de minéraux, de papillons, ainsi de suite, fassent en sorte que d'Erol continue cette mission qui était la sienne, celle d'expliquer au plus grand nombre tout ce qui était les enjeux, évidemment, d'expiation de la Terre. Alors j'ai prolongé tout cela avec d'autres éditions qui s'appellent d'Erol pour l'avenir et qui expliquent comment sauvegarder la Terre, ce qui porte sur tous les sujets enjeux environnementaux et sociétaux. Si, en fermant cette parenthèse, je vous explique tout cela, c'est parce que je pensais que l'enjeu d'expliquer la biodiversité de ce fruit, ce qu'était finalement cette extraordinaire richesse de ce fruit si peu connu et si consommé dans le monde, c'est quand même le deuxième légume, si on considère pour certains que c'est un fruit-légume, le troisième, pardon, produit au monde et consommé au monde, et c'est le premier fruit, je le rappelle, consommé au monde. Eh bien, si je pensais que c'était important, c'est parce qu'effectivement, depuis quelques années, vous n'avez à vos oreilles que les enjeux du, entre parenthèses, développement durable, entre guillemets, développement durable, j'aime pas tellement ce terme, développement soutenable, et dans les grands chapitres du développement durable, vous avez la biodiversité. Et la biodiversité, ce sont des contributions économiques majeures. Vous savez que 70-75% de l'économie tient de ce que la nature nous donne et nous offre, et pour un certain nombre de services qui ne sont d'ailleurs pas payés. En même temps, là, le développement durable, ce sont tous les enjeux, évidemment, de réchauffement climatique, pour certains, anthropique ou pas anthropique, on peut toujours discuter de ça, mais dont la particularité, c'est que l'agriculture participe notamment aux émissions de gaz carbonique. Et donc, tout ça fait en sorte que le regard que nous pouvons avoir sur une petite tomate, autrement dit sur un potager, est le regard que nous devons avoir sur notre société. Alors, non, mais c'est pour vous dire que la tomate peut vous emmener loin. La tomate, quand je vous dis, c'est un enjeu de société, c'est évidemment un enjeu qui, pour moi, englobe toutes les préoccupations que nous avons aujourd'hui sur tous les sujets environnementaux et sociétaux. Et dans cette Bourdaisière, ce château dont j'encourage chacun, parce que c'est un château hôtel et que nous avons plus de 30 chambres, à venir résider, habiter et se délecter au bar à tomates de toutes les bonnes choses que nous produisons dans le potager et que nous pouvons consommer immédiatement, et à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est ce qu'il y a de mieux. À la Bourdaisière, nous sommes en train de réaliser un projet qui est un projet national, qui est la réalisation d'une ferme en permaculture et en agroforesterie. Est-ce que c'est Ségolène qui arrive? Non? Non? Moi, ça aurait pu être Ségolène, j'aurais été ravi. Et nous sommes en train de réaliser cette ferme biologique, donc permaculture et agroforesterie, qui était un sujet que je défendais depuis 10 ans auprès du ministère de l'Agriculture. Alors, les ministres se sont succédés les uns après les autres, et comme vous savez, la politique a quand même un trait commun, c'est la capacité extraordinaire à une mémoire sélective et limitée dans le temps. Alors, il y a 10 ans, je disais, il est important de trouver des modes d'agriculture de proximité, d'agriculture nourricière de proximité, parce que ça pourra éviter des problèmes de santé, ça pourra éviter que chacun oublie la problématique de la saison, c'est-à-dire qu'on finit par bouffer des tomates en plein milieu d'hiver, des fraises en plein milieu, enfin, tout ce que vous connaissez par cœur, dont on vous bassine les oreilles, mais je vous rappelle que vous êtes tous, parce que vous avez encore une première jeunesse, mais un âge où, exactement comme cette demoiselle, on finit par se souvenir que pendant dans les 50 dernières années, quand même, les travers de la consommation nous ont emmenés sur des territoires absolument dangereux. On se réjouissait un peu comme à la cour de Louis XIV, quand la Quintinie avait imaginé faire venir du bout du monde des légumes pour flatter le palais royal. Tout ça, c'était merveilleux, sauf que maintenant, on fait venir des légumes du bout du monde, et vous connaissez, avant même le bout du monde, la fameuse histoire de ces deux camions de tomates qui, l'un fournissant en Hollande des tomates d'Espagne et l'autre venant de Hollande allant fournir des tomates en Espagne, se rencontrent exactement en France, probablement à Bordeaux, ont un accident. L'histoire est absolument véridique. Je ne la situe pas dans le temps, mais je considère qu'elle l'est. Et les deux camions s'entrechoquent, une énorme sauce tomate sur la chaussée, rouge évidemment. Et ça, pour souligner à quel point nous vivons dans un monde absurde. Les Espagnols produisant des tomates formidables, pourquoi les vendre en Hollande? Les Hollandais produisant des tomates moins formidables, mais pourquoi les vendre en Espagne? Donc, je me suis battu pour faire en sorte qu'on ait des fermes biologiques de proximité. Et la bonne nouvelle, c'est que récemment, alors je ne dis pas que c'est parce qu'il y a un changement de gouvernement, loin de là, il y a des gens qui ont admis qu'il fallait refaire ces fermes de proximité. Alors, permaculture, agroforesterie, ce sont des techniques qui tentent à, sur des fermes concentrées, 2 hectares, pouvoir produire, alors c'est même 1000 mètres carrés, on peut produire l'équivalent de 100 à 120 paniers pour nourrir 100 à 100 familles par 1000 mètres carrés. Alors, sur 2 hectares, vous avez plus de 2000 hectares de culture sur butte, sans intrants, sans mécanisation, avec très peu d'apport d'eau. Ce sont les cycles végétatifs des plantes qui, évidemment, plantées d'une certaine façon, font, alors comment ça, ce sont des cultures sur butte avec les expositions au nord ou au sud, font que la productivité est absolument formidable. Et nous avons réussi à démontrer cela à travers plusieurs fermes expérimentales. Et à la Bourdaisière, on va créer une ferme modèle qui va permettre d'écrire une sorte de bible pour peut-être, car on a perdu 4 millions et demi de fermes en 50 ans, recréer 100 000 fermes dans les prochaines années. Mais si je vous raconte tout ça, on va revenir à la tomate, parce que c'est la tomate qui m'a amené à tout cela. Et si je vous raconte tout cela, c'est parce que cette notion de ferme regroupe 6 ministères. Et on pourrait se poser la question, comment se fait que la tomate rapproche 6 ministères? Ben, le premier ministère, c'est l'agriculture. Comme vous savez, on a un modèle d'agriculture conventionnelle. Comme je vous ai expliqué, cette agriculture conventionnelle nous oblige aujourd'hui à nous nourrir de façon absolument formidable. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout n'importe quand, mais on le sait. Ce que l'on a, ce n'est pas des produits forcément de très bonne qualité. Et surtout, c'est une sorte d'agriculture quasi unique, de variétés limitées, pauvres, et avec des résultats sur la terre qui, on le sait, sont de plus en plus catastrophiques. Donc, le ministère de l'Agriculture est intéressé de se dire, est-ce qu'il y a une alternative ? Et oui, ces fermes de proximité sont des alternatives nourricières qui vont permettre d'aller sur des territoires de production locale pour un marché local, c'est-à-dire à moins de 30 km. L'autre ministère qui s'est intéressé au sujet, c'était le ministère de la Santé. Pourquoi ? Parce que plus on a des repas avec de la production, je dirais, locale, moins on a des déperditions de vitamines, des déperditions d'oligo-éléments qui peuvent, dans la durée du transport, disparaître. Troisième ministère qui était intéressé par la chose, c'est le ministère de l'écologie, parce qu'à partir du moment où vous produisez localement, et surtout sur les modes de permaculture, il n'y a plus d'empreinte carbone, c'est quasiment décarboné. Autrement dit, il y a moins d'usage d'eau, pas d'intrants, pas de chimie, pas de mécanisation, pas de pétrole, donc c'est formidable. Et en plus, on ne transporte pas les légumes à 500 km, car vous savez que la moyenne en Europe, c'est même pas 500 km, c'est 750 km pour arriver dans votre assiette. La moyenne aux États-Unis, c'est 1500 km pour qu'un aliment arrive dans votre assiette. Donc, troisième ministère. Quatrième ministère, c'est l'éducation nationale, car comme vous savez, vous connaissez parfaitement, vous tous, les saisons des légumes. Vous savez exactement comment ça pousse. Je tiens à préciser que, ayant fait quelques petites conférences dans des écoles, travaillant pour l'éducation nationale sur un certain nombre de sujets d'éducation et de pédagogie, mais pas uniquement en France, un peu partout dans le monde, quand vous posez la question à des enfants, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez plus accès à des magasins pour vous nourrir, quelle est leur réponse, à votre avis, au hasard, madame ? Vous avez 15 secondes pour trouver. Et non, ce sont simples, chère madame. Alors là, vous voyez, c'est la sagesse avancée. Ils vous disent, non, on trouvera dans un autre magasin. Vous leur dites, il n'y a plus de magasin. Ah, bon, écoute, on volera. Ah bon, mais si on ne peut plus voler, ben on mourra. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas anecdotique, c'est régulier, quels que soient les pays. Et quels que soient les pays, on s'aperçoit de l'extrême pauvreté, de la connaissance dans ces générations, qui ne sont pas uniquement des générations d'enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, ils sont à la limite, ceux de 8, 10, 12 ans sont plus avertis. Donc, 15 ans, 20 ans, 25 ans, on n'a plus de notion de ce qu'est la terre, cette terre qui nous nourrit, qui nous soigne, au même titre qu'on n'a plus du tout cette compréhension de cet équilibre, de ce patrimoine que nous avons, qui est notre corps, qu'on doit préserver. Et donc, l'éducation nationale est l'un des ministères qui est à l'écoute d'une pédagogie qui remettrait la terre à l'honneur et surtout la culture potagère. Et vous savez que les potagers dans les écoles font, je dirais pas le bonheur de tous, mais commencent à être réellement un enjeu de prise de conscience. Dans cette société, je rappelle, qui est en pleine crise écologique, crise sociologique, crise écologique, crise de sens, crise de perception. Donc on a besoin de retrouver du sens et l'école en a besoin. Alors, cinquième ministère, l'emploi, parce que créant, si on part du principe que ces fermes peuvent créer 100 000 emplois, 150 000 emplois, c'est formidable. Et le ministère des Finances, pourquoi ? Parce que 2 hectares, ce sont des terres sur lesquelles on peut cultiver des légumes et des fruits. Et à ce moment-là, effectivement, ça libère des terres qui aujourd'hui ne sont absolument pas exploitées. Je pense que certains d'entre vous ont des champs qui ne sont pas exploités, cultivés. Ça pourrait permettre à beaucoup de gens de remettre, à travers un réseau qu'on est en train de structurer, des gens à jardiner. Et c'est vraiment, ça fonctionne de 18 ans à 77 ans, réellement, parce que la permaculture permet à beaucoup de gens de jardiner facilement. Donc si je vous dis tout ça, c'est que la tomate peut effectivement vous mener loin, et la tomate peut à ce titre-là être assez exemplaire, pas simplement, je dirais, d'une problématique, je dirais plus largement agroalimentaire, écologique, économique, sociale, culturelle. Je rappelle aussi que l'une des problématiques aujourd'hui de l'alimentation, c'est qu'on vous donne un type de salade, voire 3, ne regardez surtout pas mon panier, 2 types ou 3 types de tomates, 1 ou 2 ou 3 types de melons, et encore les pommes de terre, c'est la même chose, et ainsi de suite. Or, quand je vous dis qu'il existe 10 000 variétés de tomates, je pourrais vous dire qu'il existe plus de plusieurs milliers, 3 000, 4 000 variétés de pommes de terre. Je pourrais vous dire qu'il y a plus de 30 variétés de basilic, de la sauge à ne savoir qu'en faire. Eh bien non, des salades, nous on en cultive une quarantaine, salades, les chicons et ainsi de suite, laitues. Et donc cette diversité, cette richesse végétale qui s'impose évidemment avec toutes les espèces, eh bien c'est la même chose pour les ovins, c'est la même chose pour les bovins, c'est la même chose pour les fruits, c'est la même chose pour les légumes. Autrement dit, il y a des variétés identitaires des terroirs. Et ces variétés identitaires des terroirs disparaissent parce qu'on ne les connaît plus. J'ai, dans le cadre de différents projets que nous menons à la Bourdaisière, au château de la Bourdaisière en Touraine, reçu le conseil municipal, 22 personnes d'une gravité extrême, qui sont arrivées avec le maire, et tous aussi formidables les uns que les autres, et je leur ai dit, vous allez voir dans le potager, on cultive le sucrin de tour. J'ai pensé qu'ils pensaient que c'était une plante soit vénéneuse, soit quelque chose qui ressemblait à du chanvre ou ou du cannabis pour être à la mode. Eh bien, pas du tout. Le sucrin de tour, c'est un melon délicieux qui non seulement est délicieux, mais en plus de ça, a une peau qui ressemble, pour ceux qui connaissent le chicken work de Lucknow, on dirait une dentelle. C'est absolument formidable. Et personne ne connaît le sucrin de tour, sauf le maire qui m'a dit si, si, je connais. Donc j'ai cru le maire, évidemment, mais les autres, je les croyais bien volontiers. Personne n'avait entendu parler du sucrin de tour. Vous voyez, le sucrin de tour, ça aurait pu être aussi une des particularités qu'on aurait cultivées à Tours. Et donc, la notion, encore une fois, de ce regard que l'on doit avoir sur la biodiversité, c'est finalement le regard qu'a suscité ce Conservatoire national de la tomate, car en 95, quand le CCVS, qui est l'organisme qui labellise les collections végétales spécialisées, est venu à la Bourdaisière, ils ont découvert qu'effectivement, il y avait à l'époque déjà plus de 300 variétés, qui sont devenues, on l'a dit tout à l'heure, 647 variétés au José de cette année, et on s'est aperçu que cette richesse, eh bien, exprimait finalement toute la problématique de tous les sujets qu'on a évoqués, le sujet de la diversité de ce que l'on a dans notre assiette. Cet enjeu qui est la préservation de notre biodiversité culturelle, qui est aussi un lien social, puisque les gens viennent et découvrent, évidemment, ça permet aux gens de parler. Si vous avez une belle salade de tomates avec des tomates de toutes les couleurs, ben les gens parleront de votre salade de toutes les couleurs, plutôt que le fait qu'elle soit seulement rouge et qu'elle n'ait pas de goût, et ainsi de suite, économique, on l'a dit. Évidemment, tous ces enjeux écologiques sont des enjeux qu'on découvre maintenant, mais encore une fois, tout ceci a contribué et contribue à des initiatives. Alors, toujours dans l'idée de vous faire prendre conscience que cette collection de tomates a suscité pas uniquement le deuxième ouvrage que vous avez chez Lafon qui s'appelle Tomates du Prince Jarnier, mais surtout a suscité des enfants un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que, extraordinairement, le fait à la Bourdaisière d'avoir planté ce potager d'un hectare avec toutes ces variétés de tomates. Sur lesquels vous pouvez, autour, qui sont sur des trépieds, on peut se promener dans le potager et découvrir à ce moment-là, effectivement, en les regardant de près, elles sont toutes identifiées avec leur nom, éventuellement certaines avec si c'est une variété précoce, si c'est une variété remontante, si c'est une variété tardive, s'il y a des petits fruits, s'il y a des gros fruits, il y a des grands fruits, ainsi de suite. Eh bien, tout ça fait en sorte qu'il y a une sorte de pédagogie. Par l'émerveillement, cette pédagogie par l'émerveillement, c'est essentiel. Un potager doit émerveiller. Si un potager n'émerveille pas, ce n'est pas un potager, c'est un calvaire. Or, on se souvient, à la génération en tout cas de mes parents, des potagers qui étaient devenus des calvaires. Pourquoi? Parce que c'était des rangs de légumes, des rangs de fruits, il y avait éventuellement quelques fruitiers sur l'espalier, mais tout ça était assez pauvre. La richesse entraîne l'émerveillement, l'émerveillement suscite l'envie de jardiner et en même temps l'envie de récolter et l'envie de cuisiner. À la Bourdaisière, ce qui a donné lieu évidemment au bar à tomates, c'est un véritable bonheur du sens, d'essence. Aujourd'hui, on a plusieurs points. On a le bar à tomates, le lieu de dégustation, qui est une sorte de petit laboratoire où chacun peut apprendre à déguster avec des cours de cuisine. Bientôt, il y aura une cave, avec 25 000 mètres carrés de caves, dans lesquels on va avoir une cuisine assez extraordinaire. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut soit cuisiner, soit découvrir, soit se sustenter. Mais tout vient du potager et tout est différent et tout merveilleux. On a des collections de blettes, on a des collections, comme vous voyez, de laitues, ainsi de suite, de betteraves. Et donc, c'est cette notion d'émerveillement. Et Nous avons, depuis un certain temps, reçu des gens du monde entier. Il y a 15 jours, j'ai reçu ce qu'on appelle des social entrepreneurs. Ce sont des gens américains, ce sont des gens qui ont vendu leur entreprise pour des centaines de millions de dollars et qui ont décidé de consacrer 50% des produits de leur entreprise à des projets d'intérêt généraux. Et dans les produits d'intérêt généraux, il y a la création de nouvelles fermes. Et donc, tout ce qu'on a fait à la Bourdaisière, ils en ont entendu parler, ils sont venus, ils étaient 8, ils ont même amené leur chef dans leur avion privé, et nous avons passé 3 jours à réfléchir sur les nouveaux modes de façon de se nourrir aux États-Unis, mais c'est la même chose un peu partout dans le monde. Et à ce titre-là, notre travail, notre petite tomate qui était encore une fois tout à fait anecdotique il y a encore une fois 20 ans de cela, eh bien, fait en sorte que des gens se penchent sur la façon dont on présente le potager, on présente la biodiversité, on fait vivre et on fait rêver ce patrimoine auprès d'un large public. Encore une fois, quand je dis d'un large public, c'est vraiment de 7 à 99 ans. Donc, la Bourdaisière est un lieu expérimental, c'est un lieu d'émerveillement, comme vous l'avez compris, mais c'est surtout un lieu, pour revenir à la tomane, mais de loin, effectivement, parce qu'on peut en faire des œuvres d'art, bien évidemment, mais pour vous dire que cette tomate qui a beaucoup voyagé, a voyagé dans le monde entier, finalement, parce que la tomate est autogame, c'est-à-dire que, pour ceux qui le savent, il n'y a pas de mâle, de fleur mâle, de fleur femelle, elle s'auto-féconde et elle donne lieu, effectivement, et c'est pour ça qu'elle ne se pollinise pas facilement de façon croisée, mais ça peut arriver. Et généralement, si vous récupérez les graines du premier fruit de la tomate, eh bien, vous aurez des tomates qui sont quasiment les mêmes d'une production à l'autre. Sachant que pour stabiliser généralement une variété comme les tomates, il faut 5 générations. Et à ce moment-là, les variétés se stabilisent. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est que quand vous avez 10 000 variétés, vous pouvez vous poser la question, comment on a réussi à faire en sorte d'avoir toutes ces variétés, hein. On parle bien, non pas des hybrides F1, vous savez que les hybrides F1, ce sont des hybrides qui ne sont stériles quand on le produit, ce qui est une des raisons pour laquelle aujourd'hui les productions sont obligatoirement achetées chez des semenciers, les graines sont obligatoirement achetées chez des semenciers pour faire en sorte d'avoir le contrôle du marché des graines. Eh bien, les variétés anciennes, elles ne sont pas stériles, et la façon dont vous allez éventuellement pollinisé, soit vous avez des pollinisations croisées qui se sont opérées avec le temps, puis ensuite elles se sont plus ou moins fixées, soit vous avez des pollinisations avec la main de l'homme, c'est-à-dire un petit stylo, vous allez chercher le pistil, là vous mettez ça dans la fleur de l'autre, et à ce moment-là vous obtenez une variété différente. Et alors vous avez des gens comme Tom Wagner, qui est un Américain incroyable, qui est à l'origine de 300 nouvelles variétés de tomates, 500 nouvelles variétés de pommes de terre, qui fait ses propres croisements depuis à peu près 50 ans, il a 75 ans, il est venu à la Bourdaisière, il a à peine un petit potager sur un balcon, et il est passionné de croisements, mais ce sont des croisements pour enrichir des variétés, et ça n'a absolument pas de la génétique au sens comme maintenant on l'entend. Et donc, c'est comme ça que un peu partout dans le monde, vous avez des tomates de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec des noms formidables qui vont de la princesse borghaise à la Corogo du Sénégal, à la Thailand Pink, à la New Zealand Pear, à la Russian Persimmon, à la Black Prince, à la Paul Robinson. La Paul Robinson, c'est ce fameux Américain communiste qui avait été envoyé chez les Soviétiques par les Américains. Alors, la petite histoire que, évidemment, vous connaissez peut-être, c'est que Paul Robinson était un noir américain, et du coup, les Russes, les Soviétiques à l'époque, ont décidé de faire une tomate rouge et noire, enfin plutôt noire que rouge, et, qu'ils ont renvoyé, dont ils ont inondé du marché des semences les Américains, histoire de leur renvoyer à la figure l'image de Paul Robinson, dont vous avez eu la musique des c'était les Beatles. Paul Robinson. Je vois qu'il n'y a pas des grands amateurs des Beatles ici. Si. Voilà. Donc, la tomate, encore une fois, est culturellement aussi un acte politique. Et je m'emploie à dire, et aujourd'hui à écrire, que planter un potager, planter un verger, c'est un acte politique. Pourquoi ? Parce que vous mangez exactement ce que la société vous donne. Si aujourd'hui la société vous donne de la malbouffe, et entre guillemets, des choses immondes qui font que les maladies sont croissantes dans nos populations du Nord et bientôt du Sud, entre les problématiques de diabète, d'obésité, de surpoids pondéral, bref, toutes ces maladies qui sont de plus en plus prégnantes dans nos sociétés, eh bien, si on se nourrissait mieux, et si pour se nourrir mieux, on en revient à la suggestion que pour laquelle je milite, recréer des potagers de proximité, si on se nourrissait mieux, effectivement, eh bien, il y aurait plus de gens en bonne santé. J'ai été un peu long, mais c'est pour vous dire que la tomate, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ceux qui dénigraient, alors je ne dis pas que tout le monde dénigrait, ma cousine étant là, je peux s'assurer que même mon frère dénigrait la tomate. J'ai une femme qui finalement s'est rendue, il y a 17 ans de cela, à l'idée que finalement la tomate c'est quand même très agréable et que quelquefois j'entends tout de même à la maison, ah les tomates, vivement qu'on ait autre chose. Et après c'est, ah les cucurbitacées, vivement qu'on ait autre chose, et ainsi de suite. Mais les saisons, c'est essentiel. Refaire en sorte que les saisons soient un bonheur de cultiver, évidemment, et d'attendre, mais en même temps de cuisiner en famille, de cuisiner avec des amis, de partager ce moment. C'est le temps, la notion de temps. La tomate, c'est l'échelle du temps. Celle, évidemment, d'attendre, de planter cette petite graine qui va devenir un plant, qu'on va mettre en terre après les gelées en mai, puis ensuite, dont on va attendre si tout va bien. Et cette année, on a vu que quand le temps n'y est pas, on peut avoir des mauvaises surprises, du mildiou. Mais non, cette menace que nous avons tous et que vous avez particulièrement dans le Bordelais, mais en même temps, les fleurs qui coulent. Cette année, on a eu beaucoup moins de mûrissement de fruits et beaucoup plus de maladies que les autres années. Mais en même temps, quand on attend ces tomates de toutes les couleurs, alors là, on se dit que c'est formidable, on va se régaler aussi bien avec des soupes, des jus de tomates. On a créé un bar à tomates avec des dizaines de jus différents, de toutes les couleurs, avec des soupes, des gazpachos, des confitures, des chutneys, des ketchup fait maison, mais en même temps des glaces à la tomate, des granités de tomates, des sorbets de tomates, des clafoutis de tomates, des tartes à la tomate, et bien sûr, tout ce qu'on peut imaginer faire avec tous ces fruits de taille et de forme différentes. Je rappelle que quelques-unes sont des quelques petits grammes très sucrés et d'autres vont jusqu'à peser 800-900 grammes. Il y a des records à 1,2 kg, 1,3 kg. Je peux vous assurer que c'est formidable et encore une fois, pour que ça soit formidable, faut-il encore le faire soi-même.